France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le deuxième épisode, La raison poétique, réconcilier la philosophie et la poésie. De la raison poétique, il est très difficile, presque impossible de parler, écrit Maria Zambrano à la fin de sa vie dans Notes pour une méthode. C'est pourtant l'enjeu de cette émission, parler de la raison poétique, un mode de rationalité inédit en germe dans son œuvre dès la fin des années 1930. Dans la réconciliation entre la philosophie et la poésie, deux dimensions complémentaires de la pensée, Maria Zambrano trouve un nouvel usage de la raison, capable d'être au plus proche de l'expérience humaine. Inclusive, la raison poétique prend en charge tout ce qui a été délibérément abandonné par le rationalisme occidental et son approche systémique. Elle inclut donc l'image, le symbole ou encore la métaphore dans lesquelles elle s'incarne. Le langage utilisé par Maria Zambrano elle-même en est le témoignage. Imagé et mouvant, celui-ci tente d'épouser la multiplicité et le caractère dynamique du réel. S'il est si difficile pour Maria Zambrano de parler de la raison poétique, n'est-ce pas parce qu'elle est avant tout une pratique ? Pour parler de la raison poétique, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Camille Lacot-Singuilly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études hispaniques à Sorbonne Université, spécialiste de la philosophie espagnole contemporaine et de Maria Zambrano. L'inédit de votre habilitation à diriger des recherches, une auscultation ou radiographie de l'âme et de la pensée de Maria Zambrano, donnera bientôt lieu à une publication. À mes côtés également, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Sourdillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres en classe préparatoire littéraire et poète. Vous avez traduit plusieurs textes de Maria Zambrano. Et en 2024, vous avez publié un livre intitulé « Maria Zambrano, le choix de naître » aux éditions de Corlevour. Jean-Marc Sourdillon, vous êtes poète, je viens de le dire, et dans la préface du livre que je viens de citer, « Maria Zambrano, le choix de naître », vous écrivez « Écrire des poèmes, c'était essayer de rejoindre Maria Zambrano ». Pourriez-vous nous parler de l'influence qu'a Maria Zambrano sur votre propre écriture poétique, elle qui a toujours été l'amie des poètes ?
Je vous remercie beaucoup pour votre question. Maria Zambrano, j'ai rencontré son œuvre quand j'avais une trentaine d'années, c'est-à-dire que j'avais déjà une pratique de l'écriture et puis j'avais aussi une réflexion sur l'écriture poétique qui me venait de ma relation avec Philippe Jacotet notamment. Donc j'étais déjà prêt à la recevoir, mais elle m'a apporté quelque chose de nouveau et qui tient à quelques phrases, et deux phrases très courtes. La première, c'est « Tout est révélation, tout pourrait l'être si on l'accueillait à l'état naissant ». Ça veut dire qu'elle me tirait du côté du naissant et non pas de la mélancolie, de la disparition, de la perte, comme on le voit partout, enfin ailleurs en fait. Et puis la deuxième phrase, c'est « De cela, de ce qui naît, on ne peut pas parler ». Et donc ce dont on ne peut pas parler, il ne faut pas le taire, comme on l'entend parfois dire ailleurs, mais au contraire, il faut l'écrire. Et donc, voilà, il y avait une direction qui m'était donnée, et cette rencontre de l'œuvre de Maria Zambrano, je l'ai faite à un moment où, donc était une pensée de la naissance, où justement la naissance réelle faisait irruption dans mon existence, au moment de la naissance de mes enfants. Et il y a eu un moment marquant, je vais être très rapide, parce que c'est vraiment là que tout se joue, c'était le jour de la naissance de mon premier enfant. J'étais dans un couloir de la maternité, et il y avait du soleil, il y avait de la lumière dans le couloir, il y avait une grande porte blanche avec un panneau de sens interdit rouge sur cette porte, et de l'autre côté il y avait la salle d'accouchement, et il y avait deux phrases qui me trottaient dans la tête, une de Kafka dans son journal qui dit « Ma vie est hésitation devant la naissance », et l'autre de Maria Zambrano, c'est en gros « Veux-tu naître ou exister ?» Ben, j'ai pas eu à choisir parce qu'on m'a appelé et je suis arrivé au moment où mon fils naissait, et à ce moment-là, et écrire et rechercher justement la vie selon la naissance n'a fait plus qu'un.
Quelle belle expérience. Vous avez aussi traduit plusieurs textes de Maria Zambrano, je l'ai dit lorsque je vous ai présenté. Pourriez-vous nous dire en quelques mots comment s'est passée cette expérience de traduction ? Son expression étant imagée et mouvante, j'imagine que la traduction doit être une tâche ardue, difficile.
Voilà, alors d'abord je ne suis pas hispaniste et j'ai été aidé par des hispanistes, et moi ce qui m'intéressait justement c'est cette langue extraordinaire, enfin, c'est pas de l'espagnol, c'est du Maria Zambrano, c'est une langue à part, et effectivement on a l'impression qu'elle invente son parcours en même temps qu'elle l'écrit, et on a l'impression qu'elle met jamais de point, enfin à peine a-t-elle posé un point qu'elle est déjà ailleurs, et j'aimais beaucoup cette idée d'une pensée et d'une écriture constamment en mouvement, et ça correspondait un peu à ce que j'aime dans la poésie justement. Et donc pour la traduire, d'abord j'ai commencé par traduire Saint Jean de la Croix pour me mettre un peu dans une sorte d'état d'esprit, et après ça effectivement il s'agissait de retrouver ce mouvement dans l'écriture, et c'est ce que j'aime faire, voilà. Donc
je vous propose à présent d'écouter un autre poète qui parle des relations entre la philosophie et la poésie.
En général,
De manière générale, les relations entre la philosophie et la poésie sont difficiles. Ou bien, il existe une totale séparation entre les deux. Il y a des poètes pour lesquels la pensée existe à peine. Et il y a aussi des philosophes qui ignorent la poésie. Mais pour moi, dans le meilleur des cas, la poésie et la philosophie s'interpénètrent. Parfois, la philosophie exerce une influence sur les poètes. C'est par exemple le cas de Machado ou celui du poète anglais Eliot. Nous assistons alors à l'apparition du concept poétique ou du concept transformé en poème, en image, dans la poésie. Mais parfois, la poésie exerce une influence sur le philosophe. C'est le cas de Maria. Les concepts deviennent des images.
C'est la voix d'Octavio Paz, poète mexicain et ami de Maria Zambrano, que l'on vient d'entendre dans une archive tirée du documentaire La Memoria Fértil, diffusé en août 1986 sur la radio-télévision espagnole. Camille Lacos-Anguilli, Octavio Paz rappelle que la philosophie et la poésie sont bien souvent séparées l'une de l'autre. Il fait peut-être référence à la condamnation de la poésie par Platon dans La République. Pourquoi Maria Zambrano, qui est en quête d'un usage de la raison qui soit au plus proche de l'expérience humaine, le trouve au contraire dans la réconciliation entre la philosophie et la poésie?
Parce que la philosophie, selon elle, est trop souvent intellectualiste, trop souvent conceptualiste, trop souvent fermée sur elle-même. Et ce qu'elle souhaite, c'est une philosophie qui puisse pénétrer la réalité, s'imbiber de l'expérience humaine, se faire corporéité. Et pour cela, elle ne peut imaginer une philosophie qui ne soit pas poétique. Il faut que le logos s'encharne, se fasse fusion dans la réalité et l'expérience et l'organicité humaine pour être pleinement en réalité philosophique, pour être philosophie authentique et authentiquement vivante.
Et c'est aussi pour ça que parfois Maria Zambrano appelle la raison poétique un savoir d'expérience?
Oui, ce savoir d'expérience, c'est, elle dit, je n'ai rien écrit que je n'ai vécu. Pour elle, ce savoir d'expérience, c'est un savoir qui ne doit pas être clos sur lui-même, qui ne doit pas être autosuffisant, qui ne doit pas vivre dans une pureté intellectualiste, comme s'il était élaboré par un seul esprit ou pour le seul concept. C'est un savoir qui est ouvert, qui doit venir traduire l'intégralité, l'organicité de la personne, traduire le souffle, le sang qui parcourt une personne humaine. Et elle appelle ça d'ailleurs savoir d'expérience, mais aussi savoir des entrailles. Je trouve l'expression oxymorique extrêmement poétique et belle.
Et c'est une image des entrailles qui lui tient tout particulièrement à cœur. Dans Philosophie et poésie, écrit en 1939, Maria Zambrano explique que la poésie naît, comme de la philosophie, de l'étonnement qu'on peut éprouver devant les choses qui se présentent à nous. Mais dans la philosophie, un geste d'arrachement aux apparences sensibles vient se superposer à l'étonnement premier. Camille Lacos-Anguilli, quelle est cette violence propre à la philosophie et pourquoi ne la retrouve-t-on pas dans la poésie?
En fait, cette violence de la philosophie, c'est une violence, on peut penser au mythe de l'allégorie de la caverne de Platon, c'est une violence qui est exercée par le philosophe qui viendrait tirer l'homme du fond de l'obscurité vers un soleil éblouissant, vers un soleil trop radiant. Et c'est une philosophie donc qui serait violente dans son extirpation de l'homme de son obscurité. Et ce que la poésie permet, c'est une intrusion finalement d'un faisceau de lumière dans cette caverne obscure pour y trouver une pénombre douce et moins violente que la philosophie. Et en cela, la poésie, ou plutôt le geste philosophico-poétique de Maria Zambrano, est un geste qui vient vivre d'étonnement.
Accompagner le mouvement de l'étonnement premier?
Voilà, qui vient vivre aussi une vibration primaire, une vibration première, un sentir originaire qui peut être vécu seulement dans la douceur. Et il y a vraiment, toute la philosophie zambranienne est un cri contre une violence déshumanisante de la philosophie qu'elle condamne et pour laquelle elle va proposer une alternative philosophique, parce qu'elle parle depuis la philosophie, mais une alternative philosophico-poétique.
Jean-Marc Sourdillon, la distinction entre la philosophie et la poésie n'est-elle pas aussi une distinction de nature éthique, au sens où elle ressemble à des attitudes, à des manières d'être de l'humain, comme on le voit dans la distinction entre l'étonnement du poète et la violence du philosophe?
Oui, alors, Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important justement dans la distinction entre les deux, c'est que dans la raison poétique, on fait attention à la singularité des êtres et des choses. Et notamment ce qu'elle reproche peut-être à la philosophie, notamment quand elle parle du mythe de la caverne, c'est qu'en fait le philosophe est obligé de renoncer à sa vie personnelle. Donc à ne plus exister que sur le mode impersonnel. Alors que justement ce qu'elle va retrouver dans la raison poétique, elle associe ça au geste d'une main qui touche et qui la main est à la fois elle touche et elle est touchante et donc qui est en contact avec tous les êtres et les choses en tant qu'ils sont singuliers. Et il me semble que justement ce que propose cette voie, la voie de la poésie par rapport à la voie philosophique, c'est ce qu'elle appelle naître justement, c'est-à-dire se laisser aller au courant de l'existence, ne pas chercher à sortir justement de ce contact avec les choses parce qu'on les aime, parce que c'est notre vie, parce qu'on veut rester fidèle à l'émotion première qui a été la nôtre et qui fait qu'on aime cette vie et celle-là, non, et pas une...
Et ça peut justement être l'étonnement...
Et voilà, exactement, c'est cet étonnement premier qui fait que... Par l'amour, en fait, on va au devant des choses en tant qu'elles sont uniques et singulières, et alors que l'autre et donc ça, ce serait naître, en fait, c'est accepter de s'abandonner au mouvement de la vie qui nous conduit d'événement en événement, en acceptant de se laisser disposer, redisposer par l'événement.
Et donc, ce serait l'attitude de la poésie.
De la poésie, voilà, c'est
ça. Pour le rappeler. Et donc, quelle attitude est aux antipodes de la naissance, alors, dans ce cas-là?
Alors, Soma, c'est ce qu'elle appelle exister. C'est-à-dire, en fait, c'est une attitude foncièrement volontariste. C'est-à-dire avoir, par la pensée, défini à l'avance sa vie comme un projet, avoir donné une sorte d'étalon à son moi et construire de l'extérieur, sculpter sa propre vie, au lieu de la recevoir de la vie elle-même. La raison poétique, c'est la vie s'éclairant elle-même. Et justement, là, par le concept, la philosophie s'écarte, se coupe de la vie pour lui donner une forme qui lui vient de l'extérieur.
Si on s'interroge sur le qualificatif poétique, raison poétique, on peut certes l'entendre au sens littéraire, mais ne faut-il pas aussi l'entendre au sens étymologique, celui du poiein des Grecs, qui signifie créer, Jean-Marc Sourdillon?
Alors, je pense que la création, là, elle est sur le plan de l'écriture. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, au contraire, il s'agit presque, au sens de Simone Veil, de décréation, hein, c'est-à-dire de se laisser s'abandonner au mouvement de la vie qui, elle-même, hein, nous impose de transformer les figures de notre moi ou les figures de notre vie, sans arrêt passer d'une forme à l'autre, détruire des formes pour en créer une nouvelle. Et donc, c'est dans ces mouvements de création, justement, des formes, que peut-être le mot poiein survient. Et il s'agit à ce moment-là, d'inventer le langage qui convient à la nouvelle situation, parce que constamment dans la vie, les situations sont nouvelles et on nous appelle, du fond de la vie, à quelque chose qui nous appelle à nous transformer au fur et à mesure qu'on avance dans l'existence. Ça s'appelle naître. Voilà.
On comprend mieux désormais ce que Maria Zambrano entend par raison poétique, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à ce contre quoi la raison poétique est élaborée, à savoir le rationalisme occidental et son approche systémique. Pourquoi Maria Zambrano critique-t-elle la philosophie lorsqu'elle est constituée en savoir absolu, Camilla Cosinghilly, et quels sont les philosophes qu'elle vise?
Alors, en fait, elle s'oppose, on pourrait dire, à une philosophie de sage et de savant. Elle s'oppose à une philosophie qui serait, qu'elle qualifie de toute puissante, d'orgueilleuse, d'autonome, dont Platon, Descartes, le rationalisme, l'idéalisme, ce qu'elle appelle les géants, sont les grands représentants. Elle est un peu une Don Quichotte de la philosophie. Elle veut que les hommes et les femmes assument leur nudité de mendiant, c'est une de ses expressions, assument les failles, les pauvretés, le non-être dont ils sont pétris. Elle veut aussi, c'est une de ses images, qu'ils retirent les couronnes qu'ils se mettent orgueilleusement sur la tête. Elle regrette aussi que l'humanité ne se considère comme la fille de personne. Et ce qu'elle déplore, c'est l'orgueil ou l'arrogance de la raison qui croit pouvoir douter de tout. Ça, c'est l'idée cartésienne. Se méfier de tout, s'en distancier, remettre en cause l'entièreté des choses et des petites choses, c'est une de ses expressions. Cette raison qui exerce un contrôle sur l'être et sur les choses, qui les écrase,
et qui oublie la vie, en fait. Et elle évoque, même chez Descartes, un délire du surhomme nietzschéen, c'est-à-dire Descartes qui serait déjà une sorte de délirant du surhomme, qui aurait finalement modelé, oubliant la condition de mendiant de l'homme, qui aurait modelé une sorte de sujet transcendantal sans limite, hyper volontaire et détenteur de ce savoir absolu. Et elle appelle ça une philosophie de Dieu-homme. Et elle dit d'ailleurs, c'est une de ses phrases, l'idéalisme dessine la figure du surhomme. Et donc elle propose cette philosophie de mendiant, cette philosophie d'homme sans couronne, cette philosophie de pauvre, cette philosophie des fous et des idiots.
Voilà. En somme, elle refuse que le sujet de la connaissance, si on reprend le sujet cartésien, trouve en lui les conditions du divin.
Exactement. Et qu'il s'auto-divinise. Elle en vient à une conclusion assez étrange que Descartes aurait produit le surhomme nietzschéen, cet homme qui s'est défait de Dieu, qui n'est plus mendiant de rien et qui n'est plus le fils ou la fille de personne.
Et donc c'est bien dangereux lorsque la clarté cartésienne se constitue en horizon.
Elle préfère un monde de clair-obscur et de pénombre. Un monde aurorale, une philosophie ou une philosophie poétique aurorale.
Oui, parce que le savoir absolu cherche à l'inverse l'unité et ce faisant, si je comprends bien vos explications, Camille Lacossinguilly, finit par englober et réduire la vie, l'appauvrir.
Voilà, exactement.
Si on revient désormais à la difficulté que cela représente pour Maria Zambrano de parler de la raison poétique, c'est peut-être parce qu'elle est d'abord un mode d'expression qui se met en pratique. Et pour comprendre cette idée, je vous propose donc d'écouter un texte dans lequel la raison poétique s'incarne dans une image, celle de l'agneau.
Les longues années d'exil m'ont servi à m'assimiler progressivement à l'agneau et à ce regard indicible, à ce regard que je n'essaierai pas de traduire en mots, à cette haleine de l'agneau, une haleine que j'ai ressentie comme la vie de quelqu'un qui sait qu'il est destiné à mourir et qui l'accepte. De quelqu'un qui transcende la mort elle-même et qui parfois, je l'atteste dans les promenades que j'ai faites dans les hauteurs du Jura, permettait que je voie au loin un agneau. Et moi, j'allais vers l'agneau. Et il est clair que je n'arrivais jamais, que j'avais beau marcher, je ne pouvais pas arriver. Et je n'ai pas été si mauvaise marcheuse, car quand j'arrivais quelque part, il n'y était pas. Ce n'était pas son lieu, il n'était pas sur la terre, mais là-bas, entre le ciel et la terre. Qui saurait dire entre quel ciel et quelle terre promise ? Mais j'allais vers cela qu'on appelle les lointains. C'est ce mot que je donne parce que lors d'une des déroutes de l'armée vaincue, la mienne, quelqu'un leur a demandé « Mais où allez-vous ? » Et ils ont répondu « Vers les lointains. » Ils fuyaient comme j'ai fui moi aussi vers les lointains. Parce que dans les lointains, c'est là que doit être depuis toujours, depuis le fond des âges, cet agneau qui donne son souffle à l'univers.
France Culture, Avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
On vient d'entendre un texte de Maria Zambrano intitulé « Le savoir d'expérience » publié dans l'un de ses journaux le 15 septembre 1985 et traduit par vous, Jean-Marc Sourdillon. Je vous adresse d'ailleurs ma prochaine question. La raison poétique s'incarne ici dans une image. On l'a compris, c'est celle de l'agneau. Qu'est-ce qu'elle rassemble sous cette image, qui a d'ailleurs une forte valeur symbolique dans la religion ?
Alors, je commencerai par dire que on parlait d'unité à l'instant. Et il y a une autre sorte d'unité que l'unité philosophique et qui est très importante pour Maria Zambrano, c'est l'unité d'une vie. Pour elle, pour qu'une vie soit une vie humaine, donc la vie de quelqu'un, il faut qu'elle ait une cohérence interne. Et ce qui va donner cette cohérence à la vie, ça va être ce qu'elle appelle une idée inspiratrice. C'est-à-dire qu'une idée qu'on retrouve à tout moment de l'existence, à l'origine des gestes, à l'origine d'une manière d'être, enfin, une manière de parler ou d'écrire. Et cette idée-là...
Et qu'en est-il de l'agneau ? Alors oui, elle a une figure aussi qu'elle retrouve.
Justement, elle doit passer par une image, c'est-à-dire quelque chose qui est emprunté à l'existence. Alors, dans l'image de l'agneau, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça a d'abord été une circonstance. Au moment où elle traversait la frontière pour son exil qui va durer 45 ans, elle a traversé la frontière à pied. Devant elle, il y avait un homme qui portait un agneau. Et elle était juste donc derrière, elle sentait le souffle de l'agneau sur son visage. Ils se sont regardés, l'agneau et elle. Et dans son regard, elle avait une sorte d'insondable tristesse, et surtout, elle a senti que cet animal-là, il y a une pensée de l'animal chez Maria Zambrano, très contemporaine, il me semble, et que cet animal consentait à mourir. Et donc, ce visage consentait à sa mort, et il y avait quelque chose de transcendant là-dedans, la transcendait. Et donc, pendant tout son exil, cette image l'a accompagnée. Quand, on l'a entendu dans le texte, quand elle marchait, par exemple, dans les forêts du Jura, et elle s'est dit, je ne rentrerai en Espagne qu'à la suite de cet agneau. Et au moment où elle est rentrée en Espagne, où elle est arrivée à l'aéroport de Madrid...
Elle ne le voit pas.
Elle ne le voit pas, voilà.
Et oui.
Et donc, il n'y a pas d'agneau devant elle. Et donc, bon, bah, elle continue. Elle est allée à Madrid pour mourir. Et c'est quelques jours après, en regardant les photos que les journalistes ont prises de son arrivée à l'aéroport de Madrid, que tout d'un coup, elle portait ce jour-là un petit manteau blanc, qu'elle a compris que l'agneau, c'était elle. Et que s'il n'y avait plus d'homme qui portait l'agneau, il y avait en revanche derrière tout l'élan, tout le mouvement de son existence. Et ce qu'elle comprend là dans une image, c'est qu'en fait... Avec cet agneau, elle a traversé derrière lui toutes les frontières intérieures comme les frontières extérieures, les frontières de l'exil comme les frontières des douleurs, des dépressions, des souffrances. Et en fait, ce qu'elle offre à travers cette image pour que ce soit transmis, c'est l'idée, moi j'aime bien cette formule, d'une liberté pour après la mort, pour au-delà de la mort. C'est une formule que j'ai trouvée chez Henri Corbin et je sais que Maria Zambrano la lisait. Donc cette idée-là d'une façon de franchir constamment les frontières en l'acceptant, y compris la dernière.
Et qu'en est-il du symbole religieux à proprement parler, puisqu'on sait que ça peut représenter dans la religion l'innocence, la victime sacrificielle? Est-ce que du coup elle se vit comme ça lorsqu'elle se pense et se voit comme étant l'agneau qu'elle a vu au moment de la frontière?
Ici, enfin, il me semble, enfin, elle le dit presque explicitement dans le texte. Cet agneau-là, c'est l'agneau sacrificiel, c'est le Christ. On pense à l'agneau mystique de Van Eyck, par exemple, la peinture de Van Eyck. Et elle dit effectivement que, en rejoignant cet agneau, en le devenant, elle sent en elle le rythme qui fonde l'univers, c'est-à-dire cet amour qui existe à l'origine de l'univers et qui passe justement par ces figures-là, donc oui.
Et dans l'archive qu'on a entendu plus tôt dans l'émission, Octavio Paz dit que chez Maria Zambrano, les concepts deviennent des images, mais dans ce texte, on sent que l'agneau, qui est une image, une figure, comme vous venez de nous l'expliquer, Jean-Marc Sourdillon, cet agneau, il est toujours fuyant, au loin, et elle s'assimile à l'agneau qui semble en même temps toujours lui échapper. Un concept, en philosophie, à l'inverse, me semble pouvoir être saisi, puisqu'il a une place dans un système et s'articule avec d'autres concepts. Donc Camille Lacaux-Singuilly, qu'est-ce qu'on peut alors espérer saisir à travers cette image, celle de l'agneau, ou même toute autre image dans laquelle s'incarne la raison poétique?
Moi, je dirais plus que l'image de l'agneau, vous parliez de figure de l'agneau.
Oui.
Je suis toujours très sensible à cette façon qu'elle a dans sa philosophie de dégager un espace pour que le monde vienne s'inviscérer dans cet espace, s'incarner dans cet espace. En l'occurrence, dans ce texte-là, quelque chose s'ouvre et donne une corporéité à cet agneau. Mais ce qui me semble particulièrement fort chez elle, c'est qu'elle veut redonner une voix et un visage. De temps en temps, je pense en la lisant à Lévinas, un visage à tous ceux, à toutes celles qui ont été oubliés, qui ont été exclus. Je pense aux exilés, mais à l'exilé qu'elle a été, à tous les fragiles, les pauvres, les simples, les marginaux, les analphabètes, les autres, en somme. Elle a une grande sensibilité à l'altérité, évidemment. Et il me semble que vraiment, sa philosophie cherche à regarder l'autre, à regarder toutes ces figures en fait antithétiques au surhomme nietzschéen.
Oui, c'est pour ça que j'allais vous demander s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'humilité chez Maria Zambrano.
C'est proprement une philosophie de l'humanité, certes, oui, une réhumanisation du logos, par le choix de l'humilité, par opposition à un logos qui serait tout puissant, qui serait presque patriarcal. Elle n'emploie pas exactement ce terme, mais on voit bien qu'elle vient redonner la parole, en fait, aux oubliés, à ceux qui n'ont pas la parole, à ceux qui n'ont pas de visage, qui n'ont plus de visage, que sont les femmes, mais aussi les enfants, les fous, les idiots. Je pense à ces textes magnifiques sur l'idiot, de l'enfant de Vallecas, du peintre Diego de Velázquez, ou de certains visages dont elle parle, de représentée par Zurbaran, qu'elle aime énormément. Tous ces visages, en fait, qui ne révèlent pas la beauté du monde, mais une beauté fêlée, une beauté non canonique, une beauté abîmée par l'existence. Et il me semble que c'est ça qu'on retrouve, cette lumière sans éclat, dans ces personnages comme Antigone, comme Diotime de Mantinée, comme Job. Évidemment, elle est très attachée à la figure de Job, qui sont des abîmés de l'existence, mais à qui elle redonne une place sur sa scène philosophique, voilà, qui dégage un espace d'incarnation.
Et si on prend un autre exemple d'incarnation de la raison poétique, vous venez de la citer, elle a proposé une recréation ou reprise, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, de la tragédie de Sophocle,
oui,
qui s'intitule « La tombe d'Antigone » en 1967.
Je trouve ça intéressant, là, en fait, c'est comme s'il y avait un geste naturel d'actualisation de la raison poétique. La raison poétique ne pouvait presque pas s'en tenir à l'espace discursif. Il fallait, il y avait presque une nécessité chez elle de mettre cette femme, de mettre plutôt cette raison poétique en femme, en chair et en os, en carne et hueso, dirait son maître Miguel de Unamuno, le penseur basque. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport à ce logos qu'elle va critiquer, hyper puissant, hyper volontaire, c'est qu'elle propose un logos, notamment à travers Antigone, un logos pré-logique, paradoxal, un logos délirant. Antigone vient habiter un espace dans le délire, un espace dans lequel elle propose une raison d'amour. En fait, sa raison, on peut l'adjectiver. Évidemment, son grand concept, c'est, entre guillemets, sa grande image, c'est la raison poétique, mais sa raison est adjectivable de bien des manières, une raison délirante, paradoxalement, une raison maternelle, une raison féminine, une raison douce, que sont ces personnages à qui elle donne voix, à qui elle donne la parole.
Et je profite des adjectifs que vous venez d'accoler à la raison, tels que maternelle et féministe, pour vous poser une dernière question, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui, la raison poétique de Maria Zambrano est parfois réinvestie pour philosopher en tant que féministe et pour se défaire du point de vue de l'universel. Et dans cette perspective, la raison poétique apparaît comme une réponse à la raison hégémonique et patriarcale des modernes. La raison poétique peut-elle être tirée ainsi du côté de la théorie féministe, Camilla Cosinghilli ? Car si on sait que Maria Zambrano est très attentive à la condition des femmes, et notamment à leur exclusion de la philosophie, elle refuse pour autant de se désigner comme féministe.
Oui, mais elle porte une voix et une raison de femme. La puissance de sa pensée me semble résider dans sa capacité à montrer que la philosophie peut être déjuchée de ses hauteurs pour être tachée d'un sang qui soit le sang d'une femme qui a mis au monde, qui soit tachée par le sang placentaire de sa mère. Et en fait, moi, ce que j'aime, alors je ne crois pas qu'on puisse vraiment appeler cette philosophie féministe, puisque elle s'est positionnée, elle a dit qu'elle ne proposait pas une philosophie féministe. En revanche, je crois qu'elle vient bousculer ce que peuvent être les contours de la philosophie, une philosophie qui se laisse entacher par l'odeur, la puissance viscérale et entrailleuse des femmes.
Merci beaucoup Camilla Cosinghilli et Jean-Marc Sourdillon. Les références de vos travaux sont indiquées sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci également à Géraldine Sageman qui toute cette semaine prête sa voix à Maria Zambrano, ainsi qu'à Ruben Carmazine pour avoir prêté la sienne à Octavio Paz dans cet épisode. Cette émission a été réalisée par Julie Béressi avec à la prise de son Clara Gallivelle.